8h21 sur France Culture, nous retrouvons notre invité, le professeur au Collège de France, Pierre Rosanballon. Une réaction à ce que vient de dire Ludovic Piétenu.
Je crois que nous avons là une illustration parfaite du fait qu'il y a une redéfinition de la démocratie sociale avec Emmanuel Macron. C'est que la démocratie sociale est une démocratie organisée autour d'éléments régulateurs, autour de représentation des intérêts, et lui, c'est le face-à-face direct avec l'opinion. Quand il dit « puisque j'ai été élu, je suis plus légitime que tous les autres corps intermédiaires », c'était le langage que tenait Napoléon III au XIXe siècle.
C'est pas gentil,
donc,
ça.
Non, c'est pas gentil, mais c'est une réalité insensiblement d'une redéfinition du modèle politique et social français. Il faut en être bien conscient. Alors, il est vrai que s'il y a cette redéfinition, c'est aussi peut-être parce que le modèle social existant et le modèle politique est un petit peu malade. Si on voit actuellement, il y a le débat entre ordonnance ou régime ou discussion parlementaire. Le problème, c'est que la discussion parlementaire, à travers la réforme constitutionnelle de 2007, maintenant, c'est 4 discussions parlementaires. Du coup, la discussion parlementaire, elle est beaucoup trop longue. Elle est l'objet de compromis en permanence qui ralentissent à la fois la clarté des choses. Et de l'autre côté, on a une espèce de brutalité, si je puis dire, des ordonnances. Et il ne suffit pas d'opposer le dysfonctionnement parlementaire et la brutalité des ordonnances. C'est peut-être aussi qu'il faut retrouver les voies de forme de débat public dans l'opinion, de débat social qui fasse intervenir aussi de nouveaux acteurs et qui permettent de redéfinir un modèle de la discussion publique, un modèle de la négociation collective. Et les syndicats doivent s'adapter, mais ça n'est pas en passant par-dessus les syndicats qu'on réussira à redéfinir un modèle social français.
Donc pour vous, Emmanuel Macron, c'est Napoléon le Petit ?
Napoléon le Petit, en tout cas, il est vrai qu'il appartient à cette tradition jacobine bonapartiste pour laquelle l'onction du suffrage universel l'emporte sur toutes les autres formes de légitimité. Or, je crois que dans une démocratie, il y a différentes légitimités. Il y a la légitimité électorale que personne ne remet en cause, mais il y a aussi des formes de légitimité sociale à travers la représentation des intérêts, à travers le fait d'appartenir à un même groupe social. Et cela, c'est très dangereux d'avoir une démocratie qui serait écartelée entre d'un côté un sommet légitime et d'autre part une espèce d'opinion diffuse, molle et malléable.
Non mais si je parle de Napoléon le Petit, c'est parce que dans le livre de Karl Marx sur le 18 Brumaire, oui, il y a une référence à Napoléon le Grand. Alors là, en l'occurrence, Napoléon le Grand, ce pourrait être Mitterrand, puisque à l'époque de l'élection de François Mitterrand, justement, certains socialistes, je crois que c'était Louis Mexando, disaient que la droite avait politiquement tort parce qu'elle était juridiquement minoritaire. Est-ce que c'est ça, ce modèle que vous critiquez, Pierre Rosanballon ?
D'une certaine façon, c'est ce qui se passe. Et s'il fallait faire des comparaisons historiques, Emmanuel Macron n'est pas simplement Napoléon le Petit, puisque aussi il veut une revalorisation de la fonction qui est très napoléonienne tout court. Son élection est aussi le signe, il faut le voir, le signe d'un modèle français qui est un petit peu à la recherche de lui-même. Et là, on a été vers une forme un peu de polarisation extrême et problématique. Mais il ne faut pas simplement le voir à travers le personnage Emmanuel Macron. Il faut voir que c'est le système de négociation, de représentation et de débat public qui est en cause.
Alors justement parce que si on essaye de s'écarter de ce personnage et que l'on voit la scène politique française, la grande différence entre aujourd'hui et 1981, c'est qu'en 1981, les clivages étaient sensibles. Aujourd'hui, on a l'impression, c'est peut-être pas votre impression d'ailleurs, on a l'impression que la politique a comme déserter l'actualité française, c'est-à-dire que il y a un parti, La République en marche, et puis le reste est infiniment plus difficile à déceler. Est-ce que vous avez cette sensation que la période que nous vivons est une période peu politique, ou la politique en tout cas est difficile à distinguer, Pierre Rosanballon ?
On a employé, à juste titre, me semble-t-il, déjà il y a quelques années, l'expression de désociologisation de la politique. Avant, la politique était claire, chaque parti représentait plus ou moins un groupe social ou des territoires. Aujourd'hui, la société est beaucoup plus fracturée. Pourquoi ? Parce que les individus ne sont pas simplement définis par leurs conditions sociales, leur groupe social. Ils sont définis aussi par les événements qui leur arrivent, par leur situation. Donc il y a une espèce de pulvérisation, on pourrait dire, des conflits sociaux. Il y a une pulvérisation des identités, une pulvérisation des clivages et des différences. Et d'ailleurs, à sa façon, le populisme, en tout cas c'est la théorie du populisme, de dire que nous nous recomposons, c'est ce que disent les populistes, nous recomposons une unité sociale sur une autre base. Les divisions sociales à l'ancienne, ça ne marche plus, et donc nous voulons faire simplement comprendre que la société est divisée entre le haut et le bas, les élites, la caste, etc., et les gens, comme on l'a dit.
Alors justement, au sujet du populisme, voici une sortie de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet, c'était le 13 mars 2015.
Qu'est-ce que ça veut dire, populisme ? C'est une invention de la petite bourgeoisie dorée parisienne, c'est qui manifeste sa haine du peuple. Donc elle baptise populisme tout et n'importe quoi, tout ce qui n'est pas bien, dans la case, dans la norme. Bah oui, et alors ? C'est le peuple, il manifeste l'accusation populiste ne veut rien dire, c'est une étiquette dans laquelle il y a tout et n'importe quoi. Mais il y a surtout le peuple, et c'est ça qui fait peur aux belles personnes.
Votre réaction, Pierre Rosanvallon, à ces propos de Jean-Luc Mélenchon ?
Ils ont été tenus il y a pratiquement 3 ans. Et il y a 3 ans, effectivement, on peut dire que le terme de populiste avait une connotation péjorative. Il définissait, enfin, il entendait définir une politique démagogique, un style fait de facilité, d'indifférence aux faits et à l'analyse. Mais depuis 3 ans, les choses ont bien évolué. Et même du côté de Jean-Luc Mélenchon, parce que lui-même, beaucoup plus récemment, a dit, le terme de populisme, je ne le récuse pas. Parce qu'effectivement, s'il s'agit de manifester le fait qu'il y a une nouvelle forme de clivage dans la société qui oppose globalement ce que on appelle le peuple ou les gens à la caste, les oligarchies, les groupes financiers, etc. Eh bien, ce populisme, on peut le réclamer. Ce qui a d'ailleurs changé complètement, on peut dire, le rapport de la société française au terme populiste, c'est qu'avant, le terme populiste était uniquement employé d'une manière ou d'une autre pour parler de l'extrême droite, un peu partout en Europe. À partir du moment où un certain nombre de théoriciens et de personnalités politiques ont dit « il y a un populisme de gauche », le terme de populisme a changé de sens. Le terme populisme s'est anobli. Et du même coup, il faut aussi en faire une analyse. On ne peut pas simplement rester à une compréhension du populisme comme style politique. Mais il faut voir aussi que le populisme, c'est une tentative de redéfinir l'exercice de la vie démocratique, mais aussi de recomprendre la structure de la société.
Alors, justement, puisque vous parlez de l'acceptation du terme de populisme, mais alors dans le même temps, dans le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, il y a un article d'ailleurs dans la dernière livraison de la revue du Crieur à ce sujet, le terme de gauche a été en partie escamoté, et là aussi ça contribue, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, la disparition du terme de gauche chez Jean-Luc Mélenchon, le fait que le Parti Socialiste soit aujourd'hui dans un état que je vous laisserai qualifier, mais qui n'est pas le dynamisme personnel, de l'autre côté, la droite qui a d'autres soucis. Comment cela se fait-il que ce clivage disparaisse ? Est-ce que c'est purement conjoncturel ? Est-ce que pour vous, ça reflète des tendances de fond, Pierre Rosanvallon ?
Je crois que le clivage gauche-droite, il existe toujours. Il y a tout de même toujours des clivages en termes de politique fiscale, de redistribution sociale. Il y a des clivages réels qui portent sur des différences de politique publique vis-à-vis des différentes populations. Et si droite et gauche veut dire des différences de politique publique vis-à-vis de populations dans des conditions différentes, il existe toujours. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette culture politique du populisme, elle a pu se greffer à la fois parfois sur des visions nationalistes d'extrême droite, mais elle a pu se greffer aussi sur des éléments d'identité de gauche. Et qu'au fond, les points communs peut-être dans le populisme sont peut-être plus fort que ces différences, car au fond, si il se greffe sur des histoires, sur des cultures différentes, il participe globalement d'une même vision du renversement de la compréhension de ce que sont les clivages sociaux fondamentaux.
Et alors Emmanuel Macron, il est à droite ou à gauche ?
Je crois qu'Emmanuel Macron, il appartient lui-même tout à fait. Il est à l'image, il est la version, je dirais, la plus élégante du populisme, mais d'une certaine façon, il en participe également. Lui aussi, il est à la tête d'un mouvement. D'ailleurs, dans un entretien récent, j'étais frappé, Mélenchon disait, qu'est-ce qui caractérise d'une certaine manière Emmanuel Macron ? C'est sa vision de la verticalité. Sa vision de la verticalité en disant ça n'est pas à travers les corps intermédiaires, mais c'est ce rapport direct du président à la société qui construit cette société. Et c'est là que se joue la représentation. Et Jean-Luc Mélenchon acceptait cette idée de verticalité. Alors bien sûr, il exerce dans des conditions très différentes. Mais on voit qu'en termes des formes politiques, Emmanuel Macron, il partage avec les insoumis le fait qui ne croit plus du tout au parti politique traditionnel, mais qui croit au mouvement qui conjugue une certaine horizontalité et une verticalité très forte.
Alors ça, c'est un aspect effectivement d'Emmanuel Macron. L'autre aspect, il était par exemple présent dans le journal Le Monde la semaine dernière, il y avait une tribune de hauts fonctionnaires qui disait, voilà, Emmanuel Macron a mis la main sur la haute fonction publique, d'abord parce que sociologiquement, il en est l'émanation, parce que il y a des liens organiques qui ont été resserrés entre la haute fonction publique et la politique, par exemple le fait que les cabinets soient aujourd'hui, les cabinets ministériels soient en nombre limité, ce qui les oblige à s'appuyer sur l'administration. Bref, il y a d'une certaine manière une politisation de la haute administration, ou alors plus précisément une manière pour la haute administration de s'emparer aujourd'hui de la politique. Et ça, c'est une idée sur laquelle vous avez travaillé, Pierre Rosanvallon, l'idée selon laquelle en France, finalement, il y aurait la haute fonction publique qui serait en quelque sorte la permanence et le politique, le contingent et le variable. Est-ce que là, on peut qualifier Emmanuel Macron de populiste? Est-ce qu'au contraire, il ne serait pas une sorte de vision peut-être extrêmement technocratique, extrêmement française? Peut-être Colberti, je vous laisserai qualifier.
Je ne le vois pas comme représentant de la tradition technocratique française, en fait, pour une raison très simple. C'est quand cette tradition technocratique était très forte sous la 4e République, c'est parce que la politique était faible. Qu'est-ce qui donnait de la continuité à la politique française? Qu'est-ce qui construisait la politique française? C'était le commissariat au plan, c'était les grands corps des inspections des finances, des ingénieurs des ponts, des ingénieurs des mines. C'était cela qui était l'ossature du pays, qu'il faisait avancer d'une manière ou d'une autre. Emmanuel Macron, il ne laisse pas ses corps, il ne laisse pas tous ses groupes conduire la politique de la France. Il les a domestiqués. C'est quelque chose de tout à fait différent. On n'est pas du tout dans le rapport, dans cette situation qui était celle des années 60, par exemple, où on avait les Delouvriers, où on avait les Bloch-Lenay, où on avait les Nora.
Faut rappeler qui ils étaient, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires.
Ces hauts fonctionnaires qui étaient en quelque sorte les chevaliers servants du long terme. Ceux qui étaient les garants de l'intérêt public.
Je sais pas pourquoi dites-vous ça, parce que après tout, on peut dire le contraire aussi, mais et on pourrait dire que Spinetta, c'est une forme de l'émanation de cette haute fonction
publique. Cette haute fonction publique, elle existe toujours d'une certaine façon. Mais autrefois, c'était la grande noblesse d'État. Et que cette noblesse d'État l'emportait à tous les coups sur la noblesse du privé. C'est quand même ces hauts fonctionnaires qui disaient là où il fallait faire des fusions, des acquisitions, etc. Maintenant, c'est tout de même une haute fonction publique qui est diminuée dans le pays, qui est diminué par rapport aux grands intérêts privés, c'est clair.
Et l'idée qui consiste à dire on fait des réformes parce qu'il y a des problèmes et on va trouver des solutions aux problèmes. On l'entendait d'ailleurs dans cet extrait de dialogue d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture.
Oui, mais à un niveau de généralité très grand, tout le monde peut partager l'idée qu'il faut analyser des problèmes et essayer de les résoudre. Si on en est dans un langage à ce niveau de généralité, tout le monde peut s'accorder sur ce fait-là. Le problème de savoir avec qui on fait l'analyse et qui conduit le changement. Si c'est une personne qui fait l'analyse, une personne qui conduit le changement, ça n'est pas la même chose que lorsqu'il y a, par exemple, ce qui était le cas, même encore il y a une vingtaine d'années, un commissariat au plan très vivant où, justement, les corps intermédiaires discutent ensemble, se construisent des éléments d'analyse et peut-être de langage commun, et puis prénégocient, en quelque sorte, ce que va être l'avenir de leur branche.
Moi, je pensais que vous alliez me dire qu'Emmanuel Macron maquillait de la politique derrière l'administration des choses.
Je pense que Emmanuel Macron, il fait beaucoup plus de politique que d'administration des choses. Pour lui, l'administration, c'est la seconde roue du carrosse. Elle est, me semble-t-il, domestiquée. Et loin de faire renaître, je dirais, une grande administration, au contraire, il l'a mise à son service comme simplement des exécutants.
Alors on va écouter un autre homme politique, enregistré à son insu, Laurent Wauquiez, écoutez-le.
Il y a quand même eu un alignement de planètes assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que dernière il le démolisse, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. J'ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé.
Cet enregistrement désormais célèbre de Laurent Wauquiez au cours donc d'une leçon qu'il donnait à l'école de management de Lyon, un enregistrement dévoilé par l'émission Quotidien. Et puisque vous allez consacrer un colloque demain au Collège de France à la démocratie à l'âge de la post-vérité, on entend une vision un peu complotiste des choses chez Laurent Wauquiez. Qu'en pensez-vous, Pierre Rosanvallon ?
On peut dire que l'évocation d'un complot, c'est un économiseur d'explications. Ça va très vite. On n'a plus à s'expliquer. On dit, voilà, le complot, c'est comme le soupçon. C'est quelque chose de très vague dans la grisaille, et que ce vague dans la grisaille dispense de s'expliquer précisément sur les choses. Et je crois que à différents moments de l'histoire, justement, et l'évocation des complots et la manipulation du soupçon ont été ce qui était la marque, justement, de groupes politiques qui n'arrivaient pas à s'expliquer clairement sur ce qu'ils voulaient faire. Et donc, c'est toujours invoquer un ennemi mystérieux, invoquer des causes mystérieuses pour se dispenser de parler clairement.
À quelles époques ? Parce que tout à l'heure, vous disiez sur le ton de la boutade que nous étions en 1787. À l'époque, déjà, le complot avait une certaine postérité.
Oui, en 1787, le complot, on le voyait surtout à travers des accusations de Marie-Antoinette, etc. Mais l'idée d'un complot politique n'apparaissait pas. Le grand moment où apparaît l'idée du complot dans la Révolution française, c'est à partir de 1793. Donc, on voit en permanence renaître le projet monarchiste dans Londres. Et on voit surtout le rapport de l'ami et l'ennemi qui se brouille. Et c'est cela qui est le tournant dramatique de la Révolution. Le tournant dramatique de la Révolution, c'est à partir du début de la Terreur, quand le rapport de l'ami et l'ennemi n'est plus clair. En politique, c'est toujours important de savoir quelle est la différence de l'ami et l'ennemi. Mais qu'il est brouillé par cette catégorie du soupçon. Cette catégorie du soupçon, elle enveloppe de son ombre assez indéfinissable et envahissante, en même temps, toute la compréhension de ce qu'est le monde politique, et elle est le ressort, en quelque sorte, de la manipulation et le ressort de la justification des actions les plus discutables. Alors, nous n'en sommes pas là, actuellement, mais je crois qu'hélas, il y a dans le monde beaucoup de pays dans lesquels ce sont cette façon de comprendre les choses qui s'impose.
Pourquoi parle-t-on autant de complotisme ? Parce que, effectivement, les gens sont plus complotistes qu'auparavant ? Parce que...
On parle de complotisme pour une raison très simple, c'est que le complotisme prétend redonner de la rationalité dans une société, dans un univers qui est confus. Le complotisme, tel qu'il est revendiqué, il rend lisible un monde que l'on pense comme opaque, insaisissable. L'évocation du complot, elle redonne en quelque sorte de la possibilité d'agir sur les choses. On nomme un complot, cela veut dire qu'il y a un responsable. Cela veut dire que si l'on atteint ce responsable, la société peut changer. Cela veut dire aussi qu'on n'est plus simplement la victime des événements, mais qu'on les comprend d'une certaine façon. Le complotisme, il prétend donner une intelligence du monde et une capacité d'agir sur les choses, peut-être illusoires. Mais en tout cas, c'est pour cela que, et psychologiquement et politiquement, il joue un très grand rôle.
Mais alors, quelle différence par rapport à l'époque, les années 60, par exemple, où il y avait à la fois des clivages politiques très lisibles et des accusations de complotistes, de complots fomentés par l'Amérique, fomentés par des hyènes dactylographes, ça existait aussi à l'époque.
Oui, mais là, c'était, je dirais, on était dans l'ordre des insultes politiques. Mais le monde était compris à partir de catégories simples, lisibles et évidentes. C'est l'opposition entre le tiers-monde et l'impérialisme américain. C'est la lutte de classe. Tout cela, c'était des façons de comprendre le monde que l'on pouvait toujours discuté, mais qui était ancré dans la réalité et qui était lisible. Le complot est la façon de penser le monde quand ce monde n'apparaît plus gouverné par des divisions et des principes clairs et assimilables, appropriables. Paradoxalement, le complot, c'est une façon perverse de redonner de la capacité de s'approprier le monde, de le comprendre et de se diriger en lui. Et donc, c'est le signe aussi qu'il y a un appel pathétique à retrouver de la lisibilité, à retrouver de la capacité d'action. Mais là, il y a une responsabilité de ceux qui sont en face. Si les complotistes prospèrent, c'est aussi parce que de l'autre côté, il n'y a pas assez d'efforts pour redonner de la lisibilité au monde et pas assez d'efforts pour faire que chacun se sente davantage en capacité d'avoir une influence sur le cours des choses.
Alors le complotisme est-il le signe de l'irrationalité des foules? Je vais vous faire entendre à ce sujet Pierre Rosanvallon, la voix de l'un de ceux qui vous a précédé au Collège de France, Raymond Aron.
Mon contact avec la politique, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Hitler. Or, l'arrivée au pouvoir de Hitler, c'était un homme que je regardais déjà comme un barbare, qui arrivait au pouvoir, soutenu par les masses, et cet événement ne pouvait pas ne pas me faire voir l'irrationalité fondamentale des mouvements de foule, l'irrationalité de la politique, et la nécessité pour faire de la politique de jouer des passions irrationnelles des hommes.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Pierre Rosanvallon, que la comparaison avec les années 30, selon vous, ne se justifiait pas. Et cependant, on voit dans certains pays, je pense à la Hongrie, je pense également à la Pologne, renaître un certain nombre de visions de l'histoire, de l'identité nationale, de la nation, qui peuvent sembler être sensiblement identiques à celles qui pouvaient prévaloir dans les années 30.
Oui, mais c'est différent de ce que dit Raymond Aron. Raymond Aron parle de l'irrationalité des foules, de l'irrationalité des masses, c'est le langage de Le Bon, de la fin du 19e siècle, de sa psychologie des foules. Et si ce livre, Psychologie des foules, a eu un tel rôle, c'est que le monde moderne, il a sacralisé le peuple à travers le suffrage universel. Et en même temps qu'on sacralisait le peuple à travers le suffrage universel, on ne pouvait pas le déclarer dangereux, donc. Et donc, c'était les foules que l'on déclarait dangereuses. Il y avait une vision un peu, une dualité. D'un côté, le bon peuple, celui du suffrage universel, et de l'autre côté, les masses informes, obscures et dangereuses, les foules menaçantes. Donc, c'était toujours dans un monde qui n'acceptait que du bout des lèvres, en quelque sorte, la démocratie, montrer qu'il y avait toujours ce peuple, il était d'une certaine façon à la fois incontournable, mais une petite menace. Donc, il y a un peu d'ambiguïté, je dirais, dans ce langage sur la psychologie dangereuse des foules. En revanche, il est évident qu'aujourd'hui renaissent des visions des années 30 en termes de construction des identités qui ne sont plus celles des identités démocratiques, celles du constitutionnalisme, après tout le patriotisme constitutionnel, comme disait Habermas, c'est ça qui construisait la vie démocratique, c'est qu'on partageait des valeurs, on partageait alors que là, en Hongrie, en Pologne, on veut simplement partager simplement une identité défensive, on veut partager une histoire et que l'on reconstruit, que l'on mythifie. Regardons ce qui vient de se passer en Pologne avec l'interdiction. C'est quand même une nouveauté dans l'espace culturel européen post-soviétique, l'interdiction de faire référence à des faits historiques du passé de la Pologne.
Mais alors ça, justement, c'est les foules, le peuple, l'élection donc de ces partis, puisque tous ces partis, et c'est leur caractéristique commune, sont venus de manière absolument légale et constitutionnelle,
oui,
au pouvoir.
Oui, mais ça montre une chose très importante, c'est que la démocratie, ça n'est pas simplement le régime de l'élection. La démocratie, ça n'est pas simplement le régime du suffrage universel. La démocratie, c'est aussi la construction de l'état de droit. La démocratie, c'est aussi les autorités indépendantes. La démocratie, c'est aussi les cours constitutionnelles. Et donc, ce sont des visions trop étroites, ce sont des visions trop électoralistes de la démocratie qui la menacent aujourd'hui. Car, en effet, ce qui caractérise aujourd'hui le langage d'Orban, le langage des frères Kaczynski, c'est qu'ils veulent en Pologne, ils veulent une démocratie qui est en quelque sorte une démocratie rétrécie, une démocratie rabougrie, tout entière construite autour du suffrage et pas du tout construite autour de l'état de droit, construite autour des valeurs de la Constitution.
Et alors, je ne sais pas si on peut formuler une réponse à ce sujet. Est-ce que d'après vous, c'est une parenthèse, c'est-à-dire en quelque sorte les derniers soubresauts d'une vague qu'on pourrait qualifier donc de vague totalitaire ou en tout cas autoritaire, ou s'agit-il effectivement d'un retour en arrière, selon vous, Pierre Rosanvallon?
Je pense que c'est un retour en arrière qui a beaucoup d'avenir, et c'est ça le problème. je pense que ça n'est pas simplement quelques États de l'Est européen, que c'est un mouvement général dans le monde, et que nous voyons aujourd'hui dans le monde, effectivement, une sorte, c'est ce qui sait, le grand conflit à venir, ça n'est pas simplement des conflits territoriaux comme ceux qu'on voit, ou religieux, comme ceux qu'on voit au Moyen-Orient, mais le grand conflit à venir, c'est celui justement entre des démocraties rétrécies, rabougries, et au contraire des démocraties qui ne pourront vaincre ce rétrécissement que si elles-mêmes, elles s'enrichissent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, penser l'enrichissement démocratique, penser son développement est quelque chose d'absolument central, car c'est cela qui nous préservera des malheurs qui ne font pas simplement que faire revivre le passé, mais qui, hélas, aujourd'hui, dessinent un avenir qui, dans bien des têtes, prend de l'importance.
Alors, le penser en votre compagnie, par exemple, Pierre Rosanvallon, lors de ce colloque demain, la démocratie à l'âge de la post-vérité, qui aura lieu au Collège de France, en compagnie donc également du sociologue Dominique Cardon, de Romain Badoire, d'un autre sociologue, Gérald Bronner, et puis de deux scientifiques, Alain Fischer et Serge Haroche. Vous restez avec nous, Pierre Rosanvallon.